Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne avec vous à l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour le magazine Campus Info, comme chaque mercredi entre 16h et 16h30. Aujourd'hui, nous allons parler de la semaine égalité femmes-hommes qui a lieu à l'université du 4 au 8 mars avec Sandrine Rousseau qui est vice-présidente de l'université Vie étudiante et Campus égalité femmes-hommes. Bonjour Sandrine Rousseau.
Bonjour.
Alors, heureux de vous accueillir sur Radio Campus pour parler de ce thème. Alors, j'allais dire, souvent, vers le 8 mars, on parle de ce genre de problématique. Est-ce que ce n'est pas un peu réducteur que de parler de ce problème absolument ces jours-là? Et finalement, j'ai l'impression quand même que sur une année, il s'est passé beaucoup de choses.
C'est ça, c'est qu'on ne réduit pas la politique égalité femmes-hommes à une seule semaine. C'est un point d'orgue dans l'année, mais depuis la fusion des trois universités, on a énormément avancé sur les questions d'égalité. J'y reviendrai, j'imagine, dans le cours de l'émission, mais on voudrait faire de l'Université de Lille une université exemplaire sur ces questions. Et comme partout ailleurs, j'allais dire, il y a forcément du travail.
Si on prend la société en général, est-ce que la vie universitaire est en phase avec les réalités de la société d'une manière globale? C'est-à-dire, est-ce qu'on y retrouve les mêmes problématiques ou on peut encore considérer peut-être qu'on est dans une sorte de cocon où tout se passerait peut-être mieux, sinon, enfin, différemment, sinon mieux?
Alors, non seulement on n'est pas dans un cocon, mais en plus, je pense qu'on est dans un univers, l'univers universitaire, qui cristallise plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un sujet égalité femmes-hommes qui est plus important, je pense, à l'université qu'ailleurs. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'il y a une question il y a la question des étudiantes et de leur réussite et surtout de leur orientation. On a des filières qui sont extrêmement masculines encore, comme l'informatique par exemple. Et puis on a à côté de ça des filières qui sont extrêmement féminines où il y a très peu d'hommes. Et les deux sont problématiques. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à avoir une mixité plus importante. Par ailleurs, il y a une hiérarchie. Et dans cette hiérarchie, eh bien, à chaque échelon, à chaque fois qu'on gagne un échelon, eh bien, on perd un peu de femmes. C'est comme ça qu'il y a à peu près 3 professeurs sur 4 qui sont des hommes et 1 professeur sur 4 qui est une femme au niveau de l'université de Lille. C'est aussi un lieu où finalement les violences sexistes et sexuelles existent et peut-être même existent plus qu'ailleurs dans la société parce que entre étudiants, lors de soirées, lors de fêtes, de manifestations. Et ce sont des lieux qui sont propices à ce type de comportement. C'est aussi des comportements que l'on peut observer entre enseignants et étudiantes, par exemple, au moment de la thèse, où les rapports de pouvoir peuvent être exacerbés par rapport à d'autres milieux dans la société. Donc il ne faut pas croire que l'université est un lieu préservé du sexisme, au contraire. Par contre, c'est aussi un lieu qui a ça comme avantage, c'est qu'on peut y faire des choses. Et on peut vraiment innover sur ces questions-là. Donc pas d'angélisme, mais par contre une volonté politique très forte d'avancer.
Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui est fait en termes de prévention sur l'Université de Lille ?
De prévention sur la question d'égalité femmes-hommes, y a énormément de choses puisque, par exemple, on est la seule université en France à former toutes les associations. Les associations, pour avoir des fonds de l'université ou pour avoir une salle de l'université, elles doivent avoir un agrément. Et pour avoir cet agrément, elles doivent suivre une formation de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, par exemple. Ça, on est les seuls à le faire. Et c'est très important parce que les associations sont des relais très proche du terrain, très proche de ce qui peut se passer. Et donc, elles peuvent remonter des cas, elles peuvent informer, elles peuvent veiller. Là, récemment, on a évité des cas de violences sexuelles grâce à ces formations attribuées aux associations. À partir de, j'espère, la rentrée prochaine au moins, on va mettre en place ce qu'on appelle des référents violences sexistes et sexuelles dans les soirées étudiantes, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui seront identifiées et qui pourront agir en cas de soupçon de violence. On a aussi des programmes qui favorisent la mixité dans des filières qui sont non mixtes. Typiquement, on essaye d'aller chercher des lycéennes et des collégiennes pour les sensibiliser à l'informatique, au fait que ce sont des métiers qui sont aussi faits pour elles. On a énormément de valorisation des femmes dans les filières masculines et on a aussi une volonté d'aller chercher les hommes sur les filières féminines. Donc tout ça, ça représente de la prévention. On est en train de travailler sur une charte égalité femmes-hommes. Mais voilà, tous ces actes de prévention ne permettent pas quand même de réduire le problème. C'est-à-dire qu'à des moments, il faut aussi avoir des actions concrètes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a distribué 30 000 kits de protection hygiénique pour les femmes de l'université, pour les étudiantes, ce qui, encore une fois, est une première et qui a été extrêmement bien reçue parce que c'est un budget conséquent dans le budget des étudiantes auquel on ne pense pas forcément. Et derrière, ça renvoie aussi à un tabou qui est le tabou des règles. Enfin bref, l'idée est de faire feu de tout bois, feu de tout bois sur les questions égalité femmes-hommes. Là, par exemple, la semaine prochaine, on va aussi sortir les femmes des archives de l'université. Parce qu'il y a un truc très intéressant, c'est que si vous regardez le site Wikipédia de l'université, vous faites Université de Lille sur Wikipédia, vous verrez, il y a à peu près il y a plusieurs dizaines d'hommes qui sont présentés, les anciens étudiants, les anciens chercheurs de l'université. Et puis, jusqu'à très récemment, il y avait une seule femme, je crois qu'il y avait 70 hommes et une seule femme, et cette femme, c'était Miss France. Et ça, y a un côté marrant à cette histoire, mais en fait, il y a aussi un côté violent parce que les femmes ont contribué à l'université, elles ont construit l'université et il y a des femmes tout à fait exceptionnelles qui sont sorties de cette université. Et que la seule femme qui soit mise en avant sur un site comme Wikipédia, c'est Miss France, c'est-à-dire que finalement, elle a eu ce titre-là sans aucune part de responsabilité de l'université. c'est très troublant. Et je rappelle aussi qu'on peut suivre toutes ces études à l'université, aller jusqu'au doctorat et ne jamais entrer dans un amphithéâtre qui porte un nom de femme parce que sur toute l'université de Lille, il n'y a pas un seul amphithéâtre qui porte un nom de femme.
Après, on m'a dit, hein, est-ce que c'est vrai que beaucoup de gens qui réalisent des recherches souvent donnent finalement à leur directeur le droit de porter les résultats de ces travaux et des femmes peuvent travailler pour des hommes en restant dans l'ombre.
Ça s'appelle l'effet Mathilda en recherche et c'est un effet qui a été très important à des époques, qui l'est encore, mais quand même un peu moins j'espère. C'est l'idée que les femmes, pour être publiées, pour que leurs résultats soient reconnus, devaient prendre des noms d'hommes, devaient soit utiliser des faux noms, soit se mettre sous les noms de leur mari ou de leur collègue de laboratoire. Là, récemment, il y a une femme, par exemple, la première femme de Polytechnique, elle s'est déguisée en homme pour pouvoir intégrer Polytechnique. Et donc, sont attribués à des hommes des travaux qui, en fait, sont des travaux de femmes. Et ça, on le retrouve à l'Université de Lille comme ailleurs, oui.
Est-ce qu'il y a des enquêtes pour remettre à l'honneur des femmes qui auraient dû l'être ?
Oui, et le 4 mars, il va y avoir une exposition de 10 premiers portraits de femmes, là, à l'espace culture juste à côté, où on est allé chercher les premières femmes. Donc, par exemple, la première femme avocate du barreau de Lille, elle sort de l'université de Lille, et on a fait son portrait, et on a sorti comme ça 10 femmes extraordinaires, parce qu'elles ont été les premières dans un univers qui était réservé aux hommes. Je rappelle que le premier président de l'université, c'était Pasteur, et que Pasteur, dans un discours, a dit qu'il refusait que les femmes entrent à l'université parce que sinon, ça allait baisser la qualité de l'université, parce que les hommes allaient être distraits par ces femmes. Et donc, on est parti de loin, c'est-à-dire qu'il y avait une interdiction, puis il y a des femmes qui ont forcé les premières, les portes. Et donc, on leur rend hommage parce que finalement, on est toutes là aujourd'hui, parce qu'elles, elles ont ouvert ces portes-là.
Alors, on a parlé, Sandrine Rousseau, des chercheurs, des personnels, un peu des étudiants. On n'a pas beaucoup parlé de la dimension internationale de l'université et si les problématiques internationales liées à la relation femmes-hommes est aussi présente dans cette université du fait de la différence, de la complexité, de la composition du public d'étudiants. J'ai invité aujourd'hui Chang Xiaofan. Bonjour Xiaofan.
Bonjour René.
Qui est étudiante chinoise, oui, dans une école qui est l'Ensight, oui, l'école de textile qui est à Roubaix.
Oui, à Roubaix.
Et donc, toi, tu es étudiante depuis combien d'années ici dans l'université?
À l'université à l'Ensight, en France, oui. À l'Ensight, c'est la deuxième année.
Deuxième année.
Oui.
Est-ce qu'il y a en Chine une journée pour les femmes consacrées aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer dans la société.
Pas vraiment.
Le 8 mars, c'est quand même une journée internationale. Hein. Donc normalement, c'est une journée qui concerne tous les pays, mais bon.
Est-ce que ce que tu as entendu dans les propos de Sandrine Rousseau, tu ressens les choses d'une certaine manière? Est-ce qu'en Chine, il y a les mêmes problèmes ou pas?
Oui, je pense que pour la violence sexuelle, on a fait des préventions. On a beaucoup de préventions, mais de manière, je pense, pas très propriété, parce que on dit beaucoup à les filles comme ne s'habillez pas très sexuel, pas très jolie quand tu sortes, mais on manque de quelque chose à dire, on doit dire quelque chose à des garçons. Il faut tu dois respecter les filles. Je pense que on a beaucoup de travail à faire pour les préventions, pour les étudiantes.
Alors, avec Sandrine Rousseau, on a déjà parlé dans cette émission du problème des femmes qui se faisaient harceler alors qu'elles étaient dans des habits finalement très classiques. Donc, le facteur vestimentaire n'entre pas dans l'agression sexuelle.
Pas du tout, mais ça c'est un mythe. C'est-à-dire que c'est exactement ce que vous disiez, mais en France c'est pareil. On a tendance à considérer que quand on subit des violences sexuelles, les femmes ont une part de responsabilité. Or, celui qui franchit la ligne rouge, c'est celui qui fait la violence sexuelle. On a le droit de s'habiller en jupe, on a le droit d'être ivre, on a le droit de danser, on a le droit de tout faire. Tout ça est autorisé par la loi. Ce qui n'est pas autorisé par la loi, c'est de violer et d'agresser des femmes. Donc, il faut enlever cette idée. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans les formations de prévention sur les violences sexistes et sexuelles, ceux qui ressortent le plus chamboulés, ce sont les garçons, en fait.
Là, je vois qu'il y a une polémique avec ce jeune homme qui est dans un lycée et qui s'habille, qui se coiffe, qui se maquille, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est censé déjà être réglé, sinon qui devrait évoluer très vite?
Dans une société qui va bien et qui est égalitaire, en fait, on fait un peu ce qu'on veut de son corps. Si on a envie de se maquiller quand on est un homme, on se maquille. Si on n'a pas envie de se maquiller quand on est une femme, on ne se maquille pas. Si on a envie d'arriver en jupe, on vient en jupe, et si on veut venir en pantalon large, on vient en pantalon large. C'est ça le principe, c'est que chacun est libre d'utiliser son corps comme il le souhaite, à condition que ce soit une liberté complète. Et personne n'a le droit de lui assigner un rôle ou de lui dire ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit porter. Et ça, c'est vraiment un principe de base de notre liberté individuelle, parce que c'est ce qui fait qu'on est libre et qu'on est respecté dans une société, avec toutes nos différences. Parce que moi, je connais pas deux humains qui se ressemblent vraiment en réalité. Et pas plus de femmes que deux hommes, ou qu'un homme et une femme. Donc on est tous différents. Et il n'y a pas à nous assigner dans des rôles au motif qu'on est né avec un sexe plutôt qu'un autre.
Alors c'est vrai que dans la philosophie chinoise, il y a le yin et le yang qui sont un tout.
Vous remarquerez qu'il y a du blanc dans le noir et du noir
exactement.
Dans le blanc.
Exactement, donc c'est bien ce que vous disiez. Par rapport à la Chine, justement, Xiaofan, la culture confucéenne est encore importante. Je pense même qu'elle revient à la surface, Confucius. Est-ce que on a dit que Confucius, quelque part, était un petit peu misogyne? Est-ce que tu l'as ressenti, ça? Est-ce que dans sa façon de conseiller ou d'enseigner, de mettre en place des principes de société, il a une certaine forme de condescendance vis-à-vis des femmes ou pas? Ma question est peut-être un peu compliquée, je peux te le redire en français tranquille, si tu veux.
C'est un peu compliqué.
C'est un peu compliqué. Je veux dire, est-ce que Confucius...
Confucius? Qu'est-ce que ça veut dire, Confucius?
Confucius, tu connais?
Je ne connais pas.
Ça doit se prononcer autrement.
Ça doit se prononcer autrement.
C'est un philosophe chinois.
Voilà, Confucius, non?
Confucius?
Bon, on refera une émission sur Confucius prochainement, alors. Alors, je veux dire que, est-ce que dans la société chinoise, on a encore des stéréotypes, l'homme c'est comme ça, la femme c'est comme ça?
Oui, et il existe encore, oui. Et on a des préjugés, il existe, oui.
Est-ce que quand tu viens en France, tu ressens le même état d'esprit ou tu sens que c'est très différent les rapports entre les garçons et les filles?
Je pense que c'est un peu différent. En France, je sens plus de liberté et l'égalité qu'en Chine.
Ben, ce serait quand même un peu normal, hein, égalité, fraternité, tout ça, c'est quand même un petit peu ce qu'on défend, non?
Oui, en Chine, on a de... On dit beaucoup de les garçons sont comme ça, les filles elles ne font pas comme ça. Et on a des comme carrières, des orientations. C'est pas les filles qui peuvent décider quelle envie de faire. C'est leurs parents qui le disent. Tu as une fille. Tu fais ça, c'est trop difficile pour toi. Mmh. Il y a beaucoup de déconfiance.
Alors, est-ce que la politique de l'enfant unique, ça a changé? Puisque beaucoup de familles n'avaient qu'un enfant, et une chance sur deux, enfin presque, c'était qu'il soit une fille. Donc, la vision par rapport à l'enfant unique qui est une fille, forcément, ça lui donne plus d'importance qu'avant. Donc, est-ce que depuis qu'il y a eu la politique de l'enfant unique, les filles qui ont, j'allais dire, survécu d'une certaine manière, elles ont plus de poids dans la société parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont concentrées sur elles. Elles sont l'avenir de la famille.
Oui, mais ça change. Maintenant, en Chine, on a le droit d'avoir plus de enfants. Mais oui. À l'époque là, oui, la fille d'une enfant, c'est à une fille qui est enfant unique, elle subit beaucoup de pression sociale, oui.
Si tu avais été un garçon, quelles études aurais-tu entreprises? Quelles études aurais-tu faites si tu avais été un garçon? Tu aurais choisi quoi?
Si j'étais un garçon, j'ai choisi l'architecture, les informatiques, politiques. Mais comme une fille, plutôt littérature.
Et donc, on peut peut-être parler du textile à Roubaix, puisque tu es dans une école de textile. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles, et autant de filles que de garçons, ou bien non?
Presque autant.
Autant, oui.
Autant, parce que c'est une école ingénieure. On a deux directions, en fait. Donc, dans la direction technique, textile technique, il y a presque 80% de garçons. Mais dans l'autre direction, c'est la mode luxe, il y a presque 80% de filles.
De filles, bon. Il y a le noir dans le blanc et le blanc dans le noir.
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt le choix de nous-mêmes. C'est nous qui choisissons. Oui, c'est ce que j'aime le faire.
Alors, quand tu dis choisir, c'est peut-être un grand mot. Enfin, moi, je pense que quand même, en Chine, il y a beaucoup de parents qui choisissent pour leurs enfants, pas seulement pour les filles ou pour les garçons, mais c'est plutôt les parents qui essayent d'orienter leurs enfants vers ça ou ça, ou même vers le mariage, etc.
Si. Moi, c'est comme ça. C'est ma maman qui choisit ma majeure pour moi. C'est pas moi qui choisis. Parce que j'ai envie de être un médecin, mais toute ma famille m'a dit c'est trop difficile pour une fille, c'est trop long, parce que une formation d'être un médecin, ça va durer 8 ans au moins 8 ans. Donc mon père m'a dit tu dois marier, avoir des enfants, si tu fais une formation comme 8 ans, c'est trop long, tu vas rater le temps de marier et avoir des enfants.
Alors marier, c'est 25 ans, c'est ça?
25 ans, ouais.
C'est un projet?
C'est comme c'est normal en Chine, les filles qui se mariaient environ 25 ans, 26 ans. Mais si une fille n'a pas marié jusqu'à 27 ans, c'est elle aura beaucoup de pression sociale. Ouais.
Voilà. Donc voilà pour la Chine. Hein, d'autres pays, on sent doute
leur. En Chine, il y a quand même problème. Aussi des avortements sélectifs.
Bien sûr, hein, c'est ce que j'ai évoqué un peu.
Il y a près de 100 millions de femmes qui manquent en Asie à cause des avortements sélectifs, ce qui est un chiffre qu'on prend souvent comme une espèce de caractéristique un peu locale, mais qui en réalité est absolument effrayant. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a 100 millions de femmes qui n'existent pas à cause de la discrimination et du sexisme pur. Quoi.
Voilà, bon, tout ça évolue, je pense, un peu. Hein. On peut faire des statistiques ou les prendre de 10 ans en 10 ans pour voir si ça va dans le bon sens. Je pense quand même que ça a tendance à évoluer. Donc, par rapport à la France et aux universités françaises, on se rend compte que beaucoup de cultures s'y retrouvent. Là, on a une culture chinoise qui est présente, mais il y a d'autres cultures qui sont dans cette université. Est-ce que les problématiques, je ne vais pas dire les problèmes forcément, mais les problématiques des étudiants dans leur pays rejaillissent au sein d'une université composite?
C'est à la fois la grande force de l'université, à la française, je dirais, pas forcément l'université de Lille, mais toutes les universités. Et puis, en même temps, un point de vigilance permanent, c'est que l'université de Lille est un lieu où, justement, doit se créer quelque chose qui est un peu indépendant des cultures d'origine, des religions d'origine, même des opinions politiques d'origine, et qu'on arrive à vivre ensemble de plein de pays différents, de plein de cultures différentes, et qu'on arrive à vivre ensemble dans des valeurs qui sont le respect, l'égalité, etc. Et c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que, évidemment, que si on n'a pas de politique volontariste, et ben très vite, les choses repartent dans l'autre sens. Et c'est pour ça, là, le 5, 6 et 7 mars, on va faire trois représentations des Monologues du Vagin, qui est une pièce de théâtre justement sur la place des femmes. Et dans cette pièce, il y aura des textes en langue des signes, il y aura des textes en espagnol, en arabe, pour justement dire que ces valeurs-là sont des valeurs universelles, ou du moins qu'elles doivent devenir universelles.
Alors espérons que tous les publics répondront à l'invitation.
J'espère bien.
Donc on va rappeler le calendrier, hein. Je pense qu'il y a des choses ici à l'espace culture, puisqu'il y a une salle de spectacle, hein. Il y a des expositions.
Alors le 4 mars et toute la semaine, il y a une exposition sur ces 10 femmes qui ont commencé l'histoire des femmes à l'université. L'inauguration est le 4. Ensuite, il y a les répétitions des Monologues du Vagin le 4. Il y a des films qui sont présentés, notamment à la Maison des étudiants, pas très loin, sur par exemple le partage des tâches domestiques, qui s'appelle À tambour battant. Il y a à la faculté de médecine un film extraordinaire sur ces femmes de la NASA, les femmes noires de la NASA qui ont aidé le premier homme à aller sur la Lune et qui n'ont pas été reconnues comme étant ingénieures alors que pourtant elles ont vraiment permis cette expédition. Il y a ces représentations des Monologues du Vagin. Il y aura même des ateliers pour fabriquer des clitoris en pâte à modeler pour qu'on s'approprie aussi le sexe des femmes, c'est-à-dire qu'on se le représente et qu'il est une existence parce que ça fait partie des sujets de discrimination. Et donc, ce sera une semaine que j'espère être une semaine où partout, où que vous soyez dans l'université, en fait, vous soyez un peu confronté à des questionnements sur l'égalité entre les femmes et les hommes.
Voilà, Sandrine Rousseau, un beau moment pour réfléchir et pour partager.
Eh bien, j'espère bien et je compte beaucoup sur vous et sur votre présence nombreuse parce qu'on a besoin d'un engagement des hommes et des femmes sur ces questions parce que ce n'est pas une question de femmes, c'est une question d'hommes et de femmes.